Salut, c'est Champ Libre. Salut à tous, Champ Libre numéro 596. On avance vers la 600e. Un champ libre mensuel, vous savez, les troisièmes mercredis de chaque mois, j'ai des invités, ils sont là. Mais je voudrais commencer ce champ libre je ne vous parlerai pas de Charlie Hebdo cette semaine, parce qu'on n'a pas le temps, même si en couverture, il y a un Jean-Vincent Placé, vous savez, les écolos qui rêvent de devenir ministre, qui est bien croqué, je trouve. Voilà, jetez un œil sur le...
Amateur de grenouilles. Hein.
Sur le dernier, Charlie Hebdo. Non, moi, je voudrais vous faire part d'un truc qui m'a fait mourir de rire l'autre soir à la télé. Alors, c'était pas un film comique. Non, c'est une nouvelle émission sur la 6 M6. La télé du « C'était mieux avant », comme dit Libé d'aujourd'hui. Alors, sur M6, mardi soir, il y a eu une première émission d'une nouvelle série qui s'appelle « Garde à vous !» Et le concept de l'émission est simple. 19 garçons de 18 à 25 ans sont envoyés pendant 3 semaines dans un fort militaire des Ardennes où ils sont encadrés par des militaires patibulaires sévères, mais justes. Et vont revivre le service militaire tel qu'il se pratiquait au temps béni des conscrits. Alors, je vous passerai tout ce que ça a pu évoquer chez moi, les longues années avec les potes à essayer d'échapper à la chose, les longues années à se dire « j'ai pas envie de devenir con, je veux pas y aller », les longues années à devenir antimilitariste et à lutter pour la suppression de ce machin. Enfin bref, M6 est en train de nous dire, comme 80% des Français, et c'est ça qui me fait rire, 80% de mes compatriotes qui seraient favorables au retour du service national. Jeunesse de con. Alors, je regarde la première série, histoire de me souvenir que les combats ne sont jamais finis et parfois à reprendre, et j'entends l'un de ces pseudo-chefs militaires là qui dit « c'était mieux avant ». Aujourd'hui, la jeunesse est laxiste. Penser, écoutez bien, penser comme réfléchir, c'est déjà commencer à désobéir. Voilà, c'est le prochain sujet du bac.
Très belle morale, en tout cas.
Ouais,
ouais, magnifique.
Et voilà, les souliers à clous reviennent. Alors, ce soir, on ne va pas parler que de ça, sinon je risque de me mettre en colère. Et puis, je vais faire un petit malaise. Non, je vais commencer en vous faisant écouter un petit peu de musique. Et puis après, je laisserai la parole à Joe.
Allez.
Pour les vidéos, DVD vidéo, et à Damien.
Bonsoir.
Pour le métal. Laurent, lui, est toujours à la technique. Alors, musicalement parlant, ce soir, on commence avec un album d'un bonhomme qui se fait appeler Cleaners from Venus. Mais en réalité, c'est un Anglais qui s'appelle Martin Newell, qui est caché là derrière. Il vient d'être réédité. On trouve des tas de coffrets des Cleaners from Venus. Et puis, le bonhomme, qui a un peu plus de 70 ans, est toujours actif. Il vient de sortir un nouveau disque qui s'appelle Rose of the Lanes. Et ce mec-là, je cite, hein, c'est un vieux con, et je cite le bonhomme. Il dit « Oui, dans mon disque, il y a des imprécisions dans le solo, mais je les ai conservées rien que pour embêter les pros. » Ces guitaristes qui s'enorgueillissent de leurs grandes compétences dans leur domaine. Ils soupirent. Ils demanderont « Mais pourquoi t'as pas rejoué la partie ?» Et je répondrai « Parce que je suis Martin Newell, je suis un foutu branleur, je vous emmerde. J'ai beau être vieux, je suis encore capable de me dire « On s'en fout, on torche ça et on descend au pub. »
No Queen Matilda to ease the trials of Celtic drunks with broken smiles, who missed their station by several hundred miles, asking where are the fields of St. Giles. The streets of starlets who stop to say, I am going to make it someday. Where all the lepers got rich, I ran away, leaving me, Queen Matilda, and Captain Ray. In every window a song for sale, whistled by the milkman, can't fail. You get that hook line, you find the Holy Grail. There's a check for you later, it's in the mail. And David Bowie is long away, the ambulance has gone today. But don't you worry, I think he did okay. Now it's me, Queen Matilda, and Captain Ray. Machiavelli drops by to say, penny for your tunes, boys, hey. It's never happened in any other way, not for me, Queen Matilda, and Captain Ray.
Monsieur Martin Newell avec ses Cleaners from Venus. Ça me fait penser à les vieux films. Comment ils appellent ce film From Mars, je sais plus quoi là.
Lequel hein?
Film en noir et blanc avec les soucoupes volantes.
Ah
au bout
oui,
d'un fil.
Le plan.
Plan from Outer Space
de notre voilà, cher ami Ed Wood. Oui,
il y a un
absolument.
Peu de ça dans la musique de Martin Newell. Un côté bricolage génial. avec des mélodies qui sont souvent superbes.
Ouais, Edwood, c'était pas tout le temps génial, hein, par contre. Hein. C'est, ouais, bon, les fils en nylon qui pendent là.
Ça me fait juste penser. Voilà. Donc, Martin Newell, l'album s'appelle Rose of the Lanes. Ne le cherchez pas chez les disquaires. Il est distribué sur cassette. Vous savez, ce machin qui. Là. Et on peut heureusement télécharger tout à fait légalement sur les sites de téléchargement. Alors, je ne les citerai pas. Joe, on parle de musique ou on parle d'image ?
Les deux.
Ah bon ?
Les deux. Et d'ailleurs, j'ai laissé de côté les DVD parce que l'actualité étant relativement pauvre en ce moment, je vais surtout parler de la nouvelle série très attendue, la série événement, même je devrais dire la nouvelle pépite HBO. Pendant 20 ans, Mick Jagger, qui est le leader des Stones, tout le monde le sait, va porter un grand projet, et non des moindres, retracer, en l'occurrence, 40 ans de l'histoire du rock au cinéma. Et lors d'une interview au Télégraphe, en janvier 2016, il explique, après avoir subi la loi du business et des maisons de disques, il décide de s'investir davantage, de comprendre comment tourner le monde de la musique, de repérer les puissants, les escrocs, les personnes fréquentables et celles qui ne le sont pas, les personnes à fuir. Ce projet cinématographique devait à l'origine être une fresque de 3 heures, une sorte de casino de l'industrie musicale intitulé successivement A Long Play et History of Music. Le chanteur se tourne logiquement vers Martin Scorsese qui en 95 vient de terminer le fameux film Sur le monde du jeu à Vegas. Les deux comparses commencent à travailler sur le projet en 98, mais celui-ci, difficile à monter, ne voit pas le jour, la crise économique de 2008 scelle le destin du film. Et c'est là qu'intervient HBO, la chaîne phare et ultra puissante, qui décide d'intervenir et qui voit les choses en grand. Ce ne sera pas un film, mais une série. Scorsese retrouve son scénariste du Loup de Wall Street, Terrence Winter, scénariste en outre des Sopranos de Boardwalk Empire, déjà des chroniques d'ailleurs sur des paradis à jamais perdus. Winter étoffe le scénario, la série se tourne. L'action de vinyle débute en 1973 dans un New York sale, babylonien, apocalyptique, où la musique commence à se déchirer en plusieurs genres tels que le punk, le disco, le reggae, le rap ou le hard. Le spectateur, lui, va suivre Richie Finestra, passionnaire du rock, dont la maison de disques American Century Records, en pleine déconfiture, s'apprête à être rachetée par une major allemande. Finestra, en proie à l'alcool, à la drogue, va tenter de sauver son couple et son entreprise dans un monde en pleine mutation artistique et économique. Un monde partagé entre la nostalgie pour une ère déjà révolue hein, et une tendance à l'émergence de la standardisation de la musique. Donc la première saison de vinyle, car Dieu merci, il va en avoir plein d'autres, contient 5 épisodes pour commencer. Le pilote qui est écrit en grande partie par Scorsese et Winter, bien évidemment.
Le Big Pilot,
justement réalisé par Scorsese. Un épisode donc introductif, si l'on peut dire, de près de 2 heures. Donc un véritable film de Martin Scorsese.
Tu parles d'un épisode de série.
Ouais, voilà. Donc qui a été diffusé le lundi 15 février. Sur la chaîne d'Orange en fait hein. Mmh. Et à partir de là on verra une diffusion d'un épisode tous les lundis à venir.
Je crois que les Américains en sont au 3e.
Ouais, je sais pas parce que en fait la première diffusion avait lieu je crois le vendredi, mais je crois que c'est pas tous les lundis, c'est plus récurrent en fait.
Après ce que j'ai lu, il y a beaucoup de critiques et de commentaires sur le pilote.
Ouais, sur le pilote, ouais.
De Scorsese.
Ouais.
Et puis il y a la série qui démarre réellement. Je crois qu'ils en sont deuxième, le troisième épisode voilà. Doit être diffusé.
Alors,
et là, on passe dans autre chose, dans le monde de la série, réellement.
Dans le monde de la série. Alors, effectivement, à titre personnel, je n'ai malheureusement pas vu ce pilote, n'ai pas vu la série. J'ai épluché en long, en large, en travers, tous les trailers et bandes-annonces, en fait, qui ont précédé la diffusion. Tout simplement, tout le monde se pose la question, notamment les critiques, de savoir si les épisodes qui vont suivre vont être à l'avenant et au niveau du pilote réalisé par Scorsese, qui est apparemment complètement dingue et vraiment un très très grand film, si on peut appeler ça comme ça maintenant.
Alors, d'après ce que j'ai lu, hein, puisque effectivement on n'a pas pu voir encore ces images-là, beaucoup de personnes estiment que le pilote de Scorsese, c'est un film oui. de Scorchez, oui. dans lequel il reprend tout un tas d'éléments de ses autres films.
Ah, oh, bien sûr.
Casino, Les Affranchis, etc.
Et Taxi Driver.
Plus la partie musique. Et ce qui inquiétait beaucoup de chroniqueurs américains, c'était le risque qu'on se perde dans cette chose-là au fil des autres épisodes de la série. Il se trouve que après la projection des épisodes 2 et 3, on se rend compte que Scorchez n'est plus aux manettes.
Non, mais il reste producteur exécutif. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'avec Mick Jagger, il a le droit justement de visionnage et de retouche de montage.
Les,
en fait.
les réalisateurs qui travaillent sur les autres épisodes sont libres. Mmh. Et à ce moment-là, on quitte pas le monde du pilote de Scorchez, mais on passe dans quelque chose avec des rebondissements qui devraient permettre à l'auditeur d'accrocher à la série.
Ah, puisque d'accrocher, oui.
Puisque l'objectif, puis, c'est quand même de faire une saison, deux saisons.
Et puis par là même d'aboutir justement sur ces 40 ans d'histoire du rock voulu à l'origine par Mick Jagger. Oui, complètement.
Tu as lu des choses, Damien, là-dessus ?
Pas exactement. Enfin, j'ai partagé l'enthousiasme de beaucoup de critiques à l'annonce d'une série produite par Mick Jagger et Martin Scorsese. Je suppose que ça fait rêver beaucoup de fans de rock.
Mm-hmm. Surtout, ouais. c'est un projet vraiment qui a été long à accoucher, en fait.
Et hein, d'autant plus, finalement, moi, que ce que je trouve original dans cette série par rapport à Scorsese, c'est que c'est la première fois que Scorsese s'attaque au rock sans en faire un documentaire, parce qu'il avait filmer les concerts des Rolling Stones, The Last Bass.
Véritable série, oui.
Il a toujours mis du rock dans ses films, et pourtant, il a jamais abordé le rock frontalement dans un de ses films.
C'est très juste, et jamais il s'est laissé aller à sa mise en scène, à sa frénésie de mise en scène, et qui sont strictement restés dans le cadre de documentaires et des images d'archives. Et là, effectivement, il donne libre cours. Il a l'air, en tout cas, de donner libre cours à son, je dirais, entre guillemets, je ne serais pas objectif, son génie de créatif de mise en scène.
Je te reconnais bien là.
Voilà.
Moi, ce qui me fait sourire, mais c'est mon esprit acide, je pense, ce qui me fait sourire quand même, c'est que cette série raconte, tu l'as dit tout à l'heure, la naissance du mouvement punk disco. Oui. etc. Mais elle raconte également comment l'industrie du disque va devenir réellement une industrie qui va finir par tuer le machin directement dans l'œuf.
Qui va créer une standardisation, effectivement.
Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que cette série, qui se veut extrêmement caustique à l'égard du showbiz, soit produite par Mick Jagger.
Oui, mais c'est justement, je pense que c'est un petit pied de nez de la part de Mick Jagger qui voulait justement montrer...
À quel point il est devenu rotten.
Ah mais oui. Pardon. Ah non mais clairement, je pense que de ce point de vue-là, c'est assez adroit de sa part, parce que ça montre que toutes les personnes qui ont voulu être artistes au départ se sont petit à petit enfermées dans le business et puis dans le.
Ouais, parce que donc moi c'était le côté amusant que je trouvais à la chose. Alors il paraît que la bande originale, je sais pas si on peut dire comme ça. La série va être accompagnée de disques.
Ah, oui.
Il y a un premier disque,
il y en aura un
à la fin.
Absolument.
Et puis surtout, chaque semaine, pour chaque épisode, on aura droit à une sorte de podcast qui permettra de télécharger la musique qui va avec.
Et petite parenthèse, il y a le CD donc, qui devrait paraître début mars, en fait, doté d'une quarantaine de titres rock, en fait. Donc je pense que c'est d'ores et déjà un titre à se procurer au plus vite.
Il paraît que les premières images de la série, ça se passe dans une salle reconstituée, parce qu'elle n'existe plus. Ça s'appelle le CBGB, quelque part à New York. Et c'est un concert des...
C'est les New York Dolls. Donc, voilà.
We'll be right back.
New York Dolls, c'est extrait du premier album des New York Dolls, 1973, vous n'étiez pas né.
Non, et date à laquelle commence la série vinyle donc.
Tout à fait. Voilà. D'autres qui n'étaient pas nés en 73, c'était les métalleux.
Non, mais ça n'allait pas tarder. D'ailleurs, chers auditeurs, bonne nouvelle, le Big Four existe encore. Peu de temps après Slayer et quelques semaines avant Anthrax, dont l'album sort vendredi prochain, Megadeth accouche de Dystopia, nouveau venu après Super Collider en 2013. Vic Rattlehead, leur mascotte, est toujours présent sur la pochette. Mais qui a-t-il à l'intérieur ? Réponse tout de suite avec le morceau-titre pour s'échauffer les oreilles. Dystopia, donc sur l'album éponyme. Album qui commence sur les chapeaux de roue avec ce riff ravageur qui illustre bien le titre « The threat is real », littéralement « La menace est réelle ». Guitare lancée à pleine vitesse, grosse caisse, voix énervée, pas de doute, Megadeth est de retour. Et le solo de Dystopia, que vous venez d'entendre, nous le confirme. Titre enragé, engagé, dans lequel Dave Mustaine imagine un monde corrompu, peut-être pour mieux nous prévenir. Après tout, dans son ultime interview à Rock and Folk, Lemmy déclarait que Internet allait tous nous détruire, imaginez même une guerre qui pourrait être causée à cause d'Internet. Fatal Illusion nous montre encore une fois que Megadeth sait soigner ses intros, ici avec un solo de basse jouissif. Construit sur une accélération progressive du morceau, alors, qui est certes relative tant celui-ci est rapide dès le départ, on se demande si Megadeth fait du thrash metal ou du speed metal, qui est un autre genre. Heureusement, Death From Within nous admoneste une belle leçon de thrash metal martial et énervé. A noter d'ailleurs qu'au niveau des paroles, Mustaine poursuit sur le thème de la dystopie, sans doute pour donner une réelle cohérence à l'album, qui n'est pas pour autant un album concept. Il n'y a pas de réel thème à part celui de la dystopie, qui apparaît comme un fil rouge tout au long des chansons.
Tu as une définition de la dystopie pour nos auditeurs incultes?
Alors, la dystopie, on pourrait dire que c'est une sorte de contre-utopie. On a des exemples avec Fahrenheit 451, avec 1984, Le meilleur de monde. Donc finalement, une société qui voudrait votre malheur plutôt que votre bonheur. Et ce, à tout prix. Puis on continue avec une guitare sèche, presque douce, qui aurait pu nous faire croire que Bullet to the Brain était une balade, mais son titre évocateur démonte vite nos impressions initiales. Très rythmé, ce titre n'est pas à écouter dans la voiture, sous peine de dépasser les limites de vitesse. Post-American World est très sombre, de tout point de vue. Pour autant, on l'oublie facilement, loin d'être une perle parmi les 11 titres qui composent l'album. Par moments, j'ai même l'impression d'entendre Metallica, dont Dave Mustaine, le chanteur de Megadeth, a fait partie à une époque. Metallica, qui est donc un autre membre du Big Four, mais qui ne sort pas d'album ces temps-ci, en revanche, aucun depuis le dispensable Lulu. A l'inverse, Poisonous Shadows sonne beaucoup plus symphonique, notamment avec l'utilisation de chœurs dans les refrains et du piano final. Donc tout en restant du métal, on a là une chanson qui détonne, qui contraste avec le reste de l'album et qui donc apporte une touche d'originalité. Seul instrumental Conquer or Die dégage une ambiance pour le moins inquiétante avec sa guitare sèche mélancolique qui se transforme en riff lourd au fil du morceau. Et bah, on assiste finalement à une démonstration du talent du nouveau guitariste Kiko Loureiro, brésilien, qui fait partie du groupe Angra, qui a fait un ou deux Hellfest. Finalement, je dirais que il est prometteur, ce nouveau guitariste, et on espère que pour les prochains albums, il sera pris. Lying in State est un morceau d'album comme beaucoup d'autres, efficace, mais dispensable, malgré une outro très trash. The Emperor, ensuite, qu'on écoutera plus tard, est ma chanson préférée sur ce nouveau Dystopia. Tout y est, un killer riff, une voix écorchée, et surtout, ce qui manque peut-être aux autres titres, un refrain génial qui reste bien dans la tête. Et enfin, Foreign Policy est une reprise, la seule de l'album, une reprise du groupe de punk Fear. Fear et Megadeth étant deux groupes de Los Angeles, créés plus ou moins à la même époque, on peut imaginer qu'ils se sont connus, ou du moins que les punks ont influencé le thrash metal de Megadeth. Réarrangé avec un son métal tout en gardant l'esprit punk originel, la reprise est honnête et conclut le disque avec rage et énergie. Alors en bref, je serais tenté de faire un parallèle entre Megadeth et Motorhead, ce regretté groupe qui ne jouera malheureusement plus. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque nouveau disque, on sait à quoi s'attendre et pourtant on n'est pas déçu. Megadeth fait du Megadeth depuis sa création, et pourtant chaque album est sans être une bonne surprise et une bonne expérience et qu'on a plaisir à réécouter plusieurs fois.
C'est peut-être ça la Madeleine de Proust du métal. On parlait de Proust tout à l'heure.
Oui, oui.
Ah oui, amis auditeurs, les rockers parlent de Proust en antenne.
Ça arrive.
Proust, c'est qui? C'est le mec qui qui vend les pizzas à côté.
Ouais, ouais, c'est ça. Non ah, oui. Un poète dans l'âme.
C'est le mec qui est.
Et sinon, à noter que Megadeth, Anthrax et Slayer, donc précédemment cités, seront à l'affiche du Hellfest
voilà,
2016.
C'est ce que je voulais que tu nous dises.
Voilà. Alors, donc, entre autres illustres noms, les têtes d'affiche seront Rammstein pour le vendredi, Twisted Sister pour le samedi et Black Sabbath pour le dimanche. Black Sabbath, notons-le, ce sera sa dernière date en France. Pour toujours.
Pour toujours.
Parce que c'est la tournée The End. Black Sabbath ne tournera plus, notamment à cause du cancer de Tony Iommi. Mm-hmm. Donc voilà, ce sera vraiment la dernière occasion de voir Black Sabbath. Et si je ne me trompe pas, toutes les places du Hellfest sont déjà réservées, oui. Après, au niveau des autres noms, on peut citer...
Tu gardes le meilleur pour la fin.
Ouais, ouais, ouais. Je vais juste rappeler un peu le 2-3 autres noms qui seront à l'affiche, notamment Magma.
Hein, ah, je groupe, t'avais dit garder le meilleur pour la fin, mais bon.
Voilà. Magma, Rival Sons, qui est un groupe prometteur, Amon Amarth, dont on parlera dans quelques mois puisqu'ils vont pas tarder à sortir un nouvel album, et ce sera du très très lourd. Donc on va quitter cette chronique métal avec le morceau dont je parlais tout à l'heure, The Emperor, qui est mon préféré sur cet album.
Avec un refrain qui pourra être repris en chœur lors du Hellfest.
Voilà, et en tout cas, une véritable invitation au pogo et au headbang.
Il n'y a pas que le Hellfest, il y a le bac aussi.
Come here. Closer. Who do you? Who do you think you are? Some kind of superstar. We'll see. Where do you think you are? That it won't get you far with me. You're just so dashing. You marvel at the sound of your own voice as you crash into the ground. You look so perfect.
Champ Libre, le favori.
Je suppose que vous écoutez cette émission régulièrement. Eh bien, figurez-vous que le favori de l'émission, c'est toujours l'album A Folk Set Apart de Monsieur Cass McComb, et jusqu'à ce que mort s'en suive. Cass McComb, pour les auditeurs qui auraient raté les chapitres précédents, Folk Set Apart, l'album de Cass McComb, c'est une compilation de face B et d'inédits chutes de studio diverses. Si vous ne connaissez pas le bonhomme Cass McComb, c'est le moment de vous précipiter. Alors je reconnais que le morceau qu'on a écouté ce soir, c'est un petit truc qu'ils ont fait comme ça au fond du studio un soir en s'amusant. Mais écoutez, cet album, c'est une très bonne introduction à Monsieur Cass McComb. On va parler de bouquins, un peu, et de musique, ensuite. Je pense vous avoir déjà parlé dans Champ Libre d'une grande auteure américaine qui s'appelle Madame Joyce Carol Oates.
Oh oui, oui, oui.
Il se trouve que cette année, pas plus tard qu'il y a un mois et demi, elle nous a fourni carrément deux gros pavés de 600 pages. Alors, le style de la dame n'est pas toujours évident, donc ça fait parfois un petit peu peur de se lancer là-dedans. Sachez toutefois que si vous passez les 10 premières pages, vous êtes capturé et vous n'en ressortirez pas indemne.
C'est vrai qu'au début, on les voit quand même assez épais, les livres. Hein, donc voilà. Au début, ça peut rebuter. Mais...
Donc, je vais vous parler de ces deux bouquins. Le premier, c'est un roman qui s'appelle Carthage. Alors, Carthage, c'est une petite ville américaine. On est en 2005, juillet 2005. Les personnages sont un Américain, Zino, maire de sa ville, un notable, un bon Américain. Son épouse, aimante, bien sûr. Sa fille aînée, Juliette, gracieuse, belle, catho, et qui va se marier bientôt. Et puis la plus jeune fille, petite, disgracieuse, cynique, acide, qui s'appelle Cressida. Juliette, la belle, doit se marier, elle doit épouser un caporal de l'armée américaine qui s'appelle Brett, qui est un héros de guerre puisqu'il revient d'Irak et il en revient en très mauvais état, aussi bien physique que psychologique. Mais Juliette, malgré tout, décide de l'épouser. Elle deviendra une sorte de martyre héroïne de l'Amérique moderne. On pourrait comme ça penser que Joyce Carol Oates va nous raconter l'histoire d'un petit village américain, le retour des soldats, le retour des cercueils depuis l'Irak. Mais dès la 10e page, il y a un événement qui advient. Cressida, la plus jeune des filles, disparaît. On organise une battue, on la recherche et on ne la trouve pas. Et le roman de Joyce Carol Oates va nous décrire la descente aux enfers du père, de la mère, de la fille restante, d'autant plus que au chapitre 2 ou 3, c'est-à-dire tout à fait au début du roman, Brett, le caporal de l'armée américaine, avoue le meurtre sans pouvoir dire où il a laissé le corps. Avoue le meurtre de la plus jeune sœur sans pouvoir dire où il a laissé le corps. Voilà, je vous en dis pas plus, il vous reste encore 600 pages à lire. Ces 600 pages vont vous emmener dans les prisons de haute sécurité américaines. Ces 600 pages vont vous emmener du côté du couloir de la mort. Ces 600 pages vont vous entraîner dans la chambre à gaz. Ces 600 pages vont vous parler de la politique américaine en Irak, en Syrie, en Afghanistan, etc., etc. Et comme toujours chez Joyce Carol Oates, rien n'est joué. Et surtout pas la dernière page du roman qui risque de contredire, voire contrarier les 599 premières. Voilà, ça s'appelle Carthage. J'avais beaucoup aimé Maudit, le roman précédent de Joyce Carol Oates, mais celui-ci est nettement un cran au-dessus. Carthage, c'est chez Philippe Ray. Je vous ai dit que Joyce Carol Oates nous avait livré deux bouquins. Le deuxième s'appelle « Terres amères », au pluriel. C'est un recueil de nouvelles. Il faut savoir que Mme Carol Oates a perdu son premier mari, M. Ray Smith, en 2008, et que toutes les nouvelles que l'on retrouve dans « Terres amères » parlent de la perte, du deuil, sont les thèmes dominants des nouvelles. Alors, que dire de ce recueil de nouvelles ? Que ce sont des nouvelles qui, pour la plupart, sont dures, viscéralement dérangeantes. J'ai envie de dire, évitez si votre état d'esprit a la déprime ou le soir avant d'aller vous coucher. La lecture est parfois difficile, tellement ces petites nouvelles sont cruelles, mais encore une fois, super bien écrit. Joyce Carol Oates, une grande dame, de la littérature américaine.
Après, c'est vrai que c'est un petit peu la récurrence de l'œuvre de Oates. Hein. C'est comme c'est un...
Rien n'est jamais facile.
Voilà une facette de l'Amérique qui est assez compliquée.
Voilà. Fait, ouais. Alors, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Chaque fois qu'on lit le pitch d'un roman de Joyce Carol Oates, on pense à une histoire de vampire pour Maudit, à une histoire de mec qui revient de la guerre pour Carthage, etc. Mmh. Et en fait, chaque fois, c'est un prétexte pour décrire l'Amérique.
Pour repartir sur...
Et la morale de cette Amérique. Complètement démoralisée. Bon, au contraire. Voilà. Puisqu'on parle de l'Amérique, je vais vous parler du Grateful Dead. C'est pas moi qui ai dit que le Grateful Dead, c'était l'Amérique. C'est un mec qui s'appelle... Obama, je crois qu'il est même président du pays en question. Monsieur Obama, le président, Mr. President, a déclaré que le Grateful Dead était un monument de la culture américaine. Ça les aurait bien fait rire si on leur avait dit ça en 1960 et quelques.
Ah, là oui.
Hein? Voilà. Alors, bon, je ne vais pas vous raconter qui est le Grateful Dead, si ce n'est que Jerry Garcia, le leader, guitariste, chanteur, entre autres, du Dead est mort depuis déjà un certain nombre d'années,
oui.
Et que pour fêter les 50 ans musicaux du Grateful Dead, une série de concerts a été organisée aux États-Unis en 2015. Il y a eu un concert à Santa Clara en juin, 3 jours en juin, à Chicago, 3 jours en juillet. Ça fait donc 6 concerts en tout. Ces 6 concerts ont été filmés et enregistrés. Si vous êtes très très fan comme moi et très très riche, pas comme moi, eh ben vous pouvez acheter le petit coffret intégral qui contient 12 CD et 7 DVD. Alors, je vous dis même pas le prix. Je l'ai pas vu au magasin qui commence par un Q et qui finit par un rat. Bah oui, quoi, on peut la faire, celle-là.
Je ne réponds pas, je ne dis rien.
Le coffret s'appelle Fairzy Well, donc 12 CD, 7 DVD, c'est peut-être un peu beaucoup. Il existe également une version plus raisonnable, qui est là sur la table, avec 3 CD et 2 DVD. C'est le concert de Chicago, donc évidemment, il n'y a pas le concert de Santa Clara, ni le concert de... Pardon, il n'y a pas les 3 concerts de Santa Clara, mais seulement une compilation des 3 concerts de Chicago. Et puis, il existe également un best-of qui s'appelle The Best of Fairzy Well, avec 2 CD, mais là, c'est un peu triste parce qu'il n'y a pas d'image. Tiens, on parle de musique et d'image. Ce qui est extraordinaire lorsqu'on regarde les DVD de ce Fairzy Well du Grateful Dead, c'est que pendant les 3 premières minutes, on voit le public qui entre, le public qui parle de son groupe préféré, qui est le Grateful Dead. Ils ont les yeux qui brillent et déjà les nôtres commencent à pétiller. Et puis surtout, on voit des, je ne sais pas combien ils étaient, mais des milliers, des dizaines de milliers de personnes entassées dans ce stade immense tout autour du groupe. Et on voit arriver sur la scène les membres originaux du Dead, survivants, Bob Weir, Phil Lesh, Bill Kreutzmann, Mickey Hart, qui sont assistés, il faut bien remplacer Jerry Garcia, par 3 guitaristes, Ray Anastasio et Bruce Hornsby et Jeff Clementi. Enfin voilà, un petit bijou. Dans le prochain champ libre, je vous parlerai de M. Neil Casal, qui a fait les musiques qu'on entend pendant les entractes, les déplacements de matériel du Dead. Le Dead a passé commande à Neil Casal et ils ont fabriqué des morceaux d'ambiance à la façon de Grateful Dead. Ça s'appelle Circles Around the Sun. Je vous en parlerai aussi, mais ça serait beaucoup trop long en cette fin d'émission. Merci Joe.
Merci. À bientôt.
Pour le cinéma.
À bientôt.
Merci Damien.
Merci.
Pour le métal. Merci Laurent pour la technique. Et d'être resté assis jusqu'à la fin. Et on termine cette émission avec un titre du Grateful Dead sans Jerry Garcia. C'est le fameux concert Fairzy Well, le titre Althea. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bye. Bonne soirée.
grace. You may be a clown in the burying ground, but just another pretty face. You may be the fate of old point of restlessness, self-centered to the extreme. Can't talk to you without talking to you.